Vous écoutez France Culture.
I don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民娘家.
Hollywood stars Vic Capron ki Lord Sherry ki baat kar rahe hain.
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, cette émission que vous retrouvez sur France Culture tous les jours, entre 11h et 11h50. Comme chaque jour, vous y retrouverez bien sûr la chronique frontière d'Alexis Patovstev, ce sera tout à l'heure vers le mi-temps de l'émission. On prolonge, on clôt même notre série d'émissions sur autour des vacances, le temps des vacances. Lundi, nous parlions du droit aux vacances avec Sylvain Patieux, Benjamin Tonnet, Alexis Favre. Mardi, c'était Loin du Club avec Hubert Debache, avec Anne Choquet, Hugues Jallon. Hier, mercredi, nous parlions du tourisme culturel avec Claude Origer du Cluzeau, avec Anna Paolini, avec Françoise Gède. Mais aujourd'hui, direction les parcs nationaux.
Nulle part ailleurs se sent-on aussi en contact avec le centre de la Terre qu'à Yellowstone. On l'entend, notre planète qui gronde, qui crachote, qui fulmine dans des torrents d'eau bouillante, de boues épaisses et de vapeurs sulfureuses. En fait, nous sommes au milieu du cratère gigantesque, 60 km de diamètre, d'un volcan qui ne demande qu'à exploser. Yellowstone a déjà explosé trois fois. La dernière fois, il y a 600 000 ans, c'est-à-dire hier, en géologie. Une explosion monstrueuse de 2400 km3. Imaginez le Luxembourg qui explose comme un bouchon de champagne. Et il y a toutes les raisons de penser que Yellowstone entrera encore en éruption. Pour l'heure, Yellowstone est un enchantement pour les yeux, même si les manifestations volcaniques peuvent parfois provoquer quelques frayeurs.
Que mon amie là n'était pas très rassurée.
Oui,
elle
non,
a dit
non,
oh, c'est pas très le premier jour.
Oui,
hein.
C'est sûr. Fait,
donc
oui,
elle est restée un peu dans la voiture et puis maintenant ça y est, ça va.
Je suis acclimatée.
Qu'on se rassure, si l'on s'en tient à l'historique des éruptions, c'est-à-dire leur intervalle dans le passé, nous en avons encore pour 90 000 ans.
On a le temps de voir venir, donc 90 000 ans, extrait d'un petit reportage qui avait été diffusé sur France 2 il y a quelques années, en 2010. Pourquoi Yellowstone ? Parce que Yellowstone, c'est le premier parc national. Il a été créé en 1872 par le Congrès américain. Si on regarde là sur les dernières années, 2009 par exemple, plus de 3 millions de touristes ont visité le parc. Depuis la création de ce parc, bien sûr, ils se sont multipliés un petit peu partout dans le monde. Les parcs naturels sont au fond le prolongement du principe de protection de la nature vis-à-vis des activités humaines. Aujourd'hui, le parc national, c'est la formule incontournable dans les discours relatifs à la protection de l'environnement, au développement durable. Alors, ces parcs nationaux sont-ils au fond une solution satisfaisante pour la protection des espèces ? Sont-ils au fond compatibles aussi avec le développement du tourisme ? Que nous disent ces parcs nationaux sur notre conception de la nature et sur la place que l'homme voudrait y tenir ? Voilà un petit peu les questions autour desquelles on vous reçoit aujourd'hui, Lionel Laslas. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes en duplex depuis Chambéry. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Savoie. Vous êtes géographe. Vous êtes un spécialiste des espaces naturels protégés. Et vous êtes co-auteur d'un livre que j'ai sous les yeux, Les parcs nationaux dans le monde, sous-titré Protection, gestion et développement durable, qui était paru chez Ellipse. Et puis j'indique aux auditeurs que bientôt paraîtra dans la collection Autrement l'Atlas mondial des espaces protégés. Ce parc de Yellowstone, c'était le premier, je le disais. Peut-être faudrait rappeler dans quel contexte il a été créé, parce que au fond, est-ce qu'il a été réellement créé dans une perspective de protection de l'environnement au départ ?
Non, ça serait faire un anachronisme que d'employer ce terme, puisque le terme d'environnement a été utilisé à partir des grands congrès sur les questions justement d'environnement des années 70, notamment la conférence de Stockholm en 1972. C'est un terme qui est peu employé jusqu'alors, y compris dans les milieux scientifiques. Et puis d'autre part, la finalité première qui était celle des pionniers de cette conquête progressive de l'Ouest américain n'est pas une finalité première à proprement parler de protection.
C'était vraiment un parc public, ça se voulait ouvert à tous, au bénéfice et l'agrément de la population.
Tout à fait. Hein, le congrès, dans le texte fondateur, hein, parle de monument culturel, ce qui souligne d'ailleurs à quel point, encore aujourd'hui, les espaces protégés sont des productions culturelles, hein, liées à des contextes de civilisation spécifiques, et un monument culturel donc fondé pour le bénéfice et l'agrément du public. Donc il y a véritablement, dès l'origine, une finalité récréative, une finalité touristique, ce qui souligne d'ailleurs aujourd'hui, hein, avec le recul, un petit peu les distorsions qui peuvent exister dans certains discours autour du fait que les parcs nationaux ne doivent pas accueillir de touristes. Mmh. On voit en tout cas que c'était l'esprit dans lequel ils ont été fondés, en tout cas aux yeux de ces personnalités à l'époque. Mmh. Donc il s'agissait pour l'essentiel d'urbains relativement fortunés, relativement érudits, qui étaient partis à la découverte de l'ouest des États-Unis et qui sont en quelque sorte tombés sous le charme de ces paysages, ont considéré qu'ils avaient une valeur tout à fait intéressante, mais aussi qu'ils avaient un caractère, je dirais, fondateur dans la nation états-unienne. Dans le sens où, dans le même temps, finalement, fin 19e, les États européens et la France au premier rang desquels vont conduire des politiques de protection, mais de leur patrimoine bâti, de leur patrimoine culturel. C'est la politique des monuments historiques en France, par exemple. On peut considérer, c'est certaines interprétations qui ont été données, que les États jeunes, les États colonisés par les Britanniques, ces anciennes colonies anglo-saxonnes que sont les États-Unis, que sont le Canada, mais aussi la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, qui ont aussi fait partie des pionniers de la protection, n'avaient pas cette épaisseur historique, ou en tout cas, ils disposaient d'une épaisseur historique liée aux populations dites autochtones et indigènes, dont vous savez le sort qui leur a été réservé. Par conséquent, un des éléments qui a servi finalement de ferment pour construire une identité nationale, c'était de vastes étendues relativement peu anthropisées jusqu'alors, hein, si ce n'est donc par ces populations amérindiennes, par exemple en Amérique du Nord, et donc qui revêtaient un caractère symbolique et fédérateur extrêmement important pour une nation en construction.
Ouais, donc ce qu'on voit tout de suite, c'est le cas des États-Unis, mais on le voit ailleurs, en Afrique notamment, par exemple. Ces parcs nationaux, ils participent au fond de la construction de l'identité des États, des nations. Par exemple, quand on voit sur le cas africain, on en parlera tout à l'heure, hein, on ira du côté du Gabon, on ira du côté du Kenya, mais très clairement, quand il y a eu la vague d'indépendance, assez rapidement, se sont mis en place aussi des parcs nationaux.
Tout à fait. Alors, le continent africain, de ce point de vue-là, est extrêmement intéressant dans le sens où l'Afrique a servi de banc d'essai des politiques de protection de l'environnement pour leurs colonies européennes. C'est-à-dire que les colonies européennes ont peu créé de parcs nationaux, puisque l'Europe est assez en retard, hein, dans ses politiques de protection par rapport à l'Amérique du Nord ou par rapport à l'Afrique, parce qu'on supposait qu'il y aurait certaines réticences liées notamment à une anthropisation ancienne, à un droit de propriété relativement fort dans la plupart des États européens. Et par conséquent, donc, on a utilisé ces colonies comme finalement lieu d'expérimentation de ces politiques de protection. Ce qui explique que dès les années 20, dès les années 30, eh bien, l'espace africain, puisqu'il n'y a pas encore d'État à proprement parler à cette époque-là, est déjà marqué par une couverture par les parcs nationaux qui est beaucoup plus importante que l'Europe. Et comme vous l'avez effectivement rappelé, le mouvement des indépendances dans les années 60-70 va constituer un accélérateur de ces politiques de protection et de manière plus récente les années 90-2000, cette fois sous l'effet de ce qu'on appelle l'internationalisation de la protection de l'environnement avec l'action des grandes organisations non gouvernementales qui vont œuvrer aux côtés des États pour étoffer leur réseau d'espaces protégés, notamment de parcs nationaux.
Oui, parce que l'autre grosse vague, c'est les années 80. Je regardais dans votre ouvrage un tableau récapitulatif où on voyait, alors c'est pas le nombre de parcs nationaux dans le monde, je crois que c'est plutôt, vous l'avez classé en surface totale, mais en tout cas, on voit que les surfaces des parcs nationaux explosent littéralement dans les années 80.
Oui, alors c'est effectivement lié aux différents paramètres dont on a rappelé. Hein. Les facteurs sont extrêmement nombreux, mais les conventions internationales que j'ai rappelées tout à l'heure, avec par exemple la conférence de Stockholm de 1972, donc la prise de conscience à l'échelle internationale, poussée par des grandes organisations non gouvernementales de la nécessité de mettre en œuvre des espaces protégés pour la sauvegarde d'un certain nombre d'espèces menacées, etc. L'utilisation de ces politiques de protection comme moyen d'affirmation des pouvoirs politiques au sein des États. Hein. Il faut bien voir, je l'ai dit tout à l'heure, qu'un espace protégé, c'est une production culturelle hein, qui est rattachée à des caractéristiques d'un espace, à des caractéristiques de civilisation, à une période aussi, hein, parce qu'on n'a pas du tout la même conception, on l'a dit pour Yellowstone, de ce que pouvait être un espace protégé il y a un siècle qu'aujourd'hui. Et puis donc, c'est aussi un moyen pour un État d'affermir son pouvoir politique. Hein, donc il y a une finalité géopolitique extrêmement forte. Certains États du Sud utilisent les parcs nationaux comme moyen de sédentarisation forcée de certaines populations, de certaines minorités ethniques. Elles les utilisent également comme moyen de déguerpissement, hein, c'est-à-dire ce qu'on a appelé les réfugiés de la conservation. Donc pour aboutir aux finalités et aux objectifs de conservation, ben, on considère qu'il ne faut plus qu'il y ait deux populations. Donc on les écarte plus ou moins de force de ces nouveaux espaces protégés créés. Et puis c'est également un moyen de contrôle des frontières. Par exemple, sur l'île de Bornéo, entre la Malaisie et l'Indonésie, vous avez des réseaux de parcs nationaux de part et d'autre et d'espaces protégés de part et d'autre de la frontière qui permettent à ces deux États qui entretiennent des relations parfois difficiles de surveiller en quelque sorte leurs frontières et des minorités ethniques qui ne les reconnaissent pas toujours parce que historiquement implantées de part et d'autre de celles-ci.
Vous disiez, Lionel Laslas, tout à l'heure que l'Europe avait été un petit peu en retard par rapport à ces parcs nationaux. Comment est-ce qu'on l'explique ? La France en particulier d'ailleurs, hein, est venue assez tardivement en la mise en place de parcs nationaux. Comment le comprendre ? C'est parce que précisément, on n'a pas besoin en Europe d'asseoir son identité nationale à travers ces parcs nationaux, c'est ça ?
Oui, alors parmi les facteurs explicatifs, il y a ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'épaisseur historique. Ouais. C'est-à-dire que la notion de patrimoine s'est construite dans la plupart des États européens autour de l'idée de l'héritage historique, autour de l'idée du patrimoine bâti. Hein. C'est la cathédrale de Chartres plutôt que la caldeira de Yellowstone, si vous voulez. Donc cette idée, là encore, d'héritage historique relativement important, qui fait que, effectivement, le premier État à mettre en place des parcs nationaux, c'est la Suède, en 1909. Donc on est quand même plus de 30 ans après les États-Unis. Cela étant, la Suède, coup sur coup, la même année, va créer 9 parcs nationaux. Hein, donc c'est un mouvement extrêmement important à l'époque. Et ce mouvement se justifie en partie par l'émergence des premières menaces sur ce qu'on n'appelle pas encore l'environnement, hein, sur les éléments naturels. À l'époque, la menace, ce n'est pas le tourisme de masse comme on le dénonce aujourd'hui, c'est l'équipement hydroélectrique. Et donc un certain nombre de grandes rivières du nord de la Suède, hein, qui appartiennent à ce qu'on appelle la Laponie, qui est à cheval sur plusieurs États. Certaines de ces rivières font l'objet de grands projets hydroélectriques et donc l'État suédois va considérer qu'il devient urgent de mettre en place un certain nombre de parcs nationaux, d'où cette mise en place.
Donc on est déjà dans une, en fait, au fond, dans une vision assez différente de celle des États-Unis 30 ans avant. C'est-à-dire que la question, c'est pas forcément de mettre en tourisme un espace naturel, mais c'est précisément de le préserver des activités humaines. On est déjà dans un paradigme très différent.
Tout à fait, c'est de le préserver et la dimension culturelle n'est pas la même. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des logiques de constitution d'un État jeune qui a besoin d'affirmer en quelque sorte son existence par le biais de la protection. On est vraiment sur des logiques liées finalement aux héritages de la révolution industrielle qu'ont connu la plupart des États européens et donc de faire face à un processus d'urbanisation et d'industrialisation qui commence à prendre de l'ampleur et dont on juge que les espaces protégés peuvent constituer un des éléments, on va dire, de régulation, hein, pas de frein, parce qu'on n'en a pas ni les moyens législatifs. Hein. Il faut bien voir que historiquement en Europe, il y a beaucoup de parcs ou d'espaces protégés qui se sont créés sans même qu'il y ait de loi. Hein. Dans le cas français, vous l'avez rappelé, la France est considérée comme étant en retard à l'échelle européenne puisque la loi sur les parcs nationaux date de 1960. Son premier parc national, c'est celui de la Vanoise, il date de juillet 1963. Mais il y a eu, dès les années 1910-1920, des créations de ce qu'on a appelé parcs nationaux qui ont été par la suite déclassés en parcs domaniaux. Pourquoi ? Parce que la loi n'existait pas encore. Et c'est notamment en 1918 le parc de la Bérarde qui est devenu par la suite le parc national du Pelvoux et qui a constitué ensuite l'embryon du parc national des Écrins créé en 1973.
Lionel Laslas, je suis sûr qu'il n'aura pas échappé aux auditeurs que une fois on parle de parcs nationaux, l'autre fois on parle d'espaces protégés. Qu'est-ce qu'on appelle précisément un parc national ? C'est une catégorie qui répond à quels critères ?
Alors, le terme que vous venez d'employer est le bon, hein, c'est-à-dire qu'il existe effectivement différentes catégories d'espaces protégés à l'échelle mondiale. Pourquoi on a ressenti finalement le besoin d'établir ces catégories? Tout simplement, comme vous l'avez rappelé, parce que le nombre d'espaces protégés actuellement à l'échelle du globe est tout à fait considérable. Hein, on estime qu'ils sont aujourd'hui plus de 120 000. Alors les chiffres sont fluctuants. Pourquoi? Parce qu'on ne prend en considération que ceux qui sont reconnus à l'échelle nationale. Donc il y a parfois des espaces protégés qui sont le fait de collectivités locales ou d'organisations non gouvernementales, mais sans forcément qu'il soit reconnu à l'échelle nationale. Donc 120 000 espaces protégés, c'est tout à fait considérable. Ça représente 21 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire le double de la superficie du Canada et 13% de la surface terrestre. Donc cette couverture considérable a rendu nécessaire la mise en place de différents types d'espaces protégés de telle manière à ce que l'on sache finalement de quoi on parle. Et parmi ceux-ci, comme vous l'avez dit en introduction de l'émission, les parcs nationaux sont effectivement les plus connus en général, les plus emblématiques, les plus significatifs, mais ils ne représentent qu'une partie, hein, seulement de ces 120 000 espaces protégés, puisque aujourd'hui on estime qu'il y a à peu près 2500 parcs nationaux. Hein, donc 2500 sur 120 000, c'est pas énorme.
Ah non, c'est pas énorme. Lionel Assas, toujours pour aller dans cette question des aires protégées, si je regarde la définition de l'UICN, c'est-à-dire l'Union internationale pour la conservation de la nature, oui. Elle définit, c'était en 1994, la notion d'aire protégée, portion de terre et ou de mer, vouée spécialement à la protection et au maintien de la diversité biologique, ainsi que des ressources naturelles et culturelles associées, et gérées par des moyens efficaces et gérées juridiques ou autres, pardon. C'est une définition qui vous satisfait, vous ?
Pas tellement, non. Mais enfin, l'UICN a un rôle important. Hein. L'UICN, c'est un des organismes de l'ONU. Hein, donc c'est ce qu'on appelle une ONG. Elle fait partie de ce qu'on appelle les six BINGO. Alors les BINGO, c'est les grosses organisations non gouvernementales. Hein. Le NGO renvoie à ONG, donc les organisations non gouvernementales. Et l'UICN fait partie de celles-ci. Donc son rôle à l'UICN, hein, qui est installé à Gland en Suisse, c'est justement d'essayer d'identifier les caractéristiques des espaces protégés à l'échelle du globe, d'essayer également de les ranger entre guillemets dans des catégories et puis de conduire avec l'apport d'un certain nombre d'experts, hein, de biologistes, d'anthropologues, etc., de conduire un certain nombre d'études qui permettent de comprendre quelles sont les politiques conduites, quels sont éventuellement les efforts, hein, puisque c'est une ONG qui est tout de même militante, hein, donc qui va dans le sens évidemment d'une protection qui devrait s'étendre et s'accroître. Hein, ce qui est
Mais
un
pour,
choix.
Le coup, pour le coup, elle, son souci, c'est de protéger, de conserver la nature. Hein. Voilà. C'est pas d'accueillir des touristes.
Non, on est dans une logique qui n'est pas une logique de neutralité. Hein. Mmh. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent par rapport à ce type de discours. C'est une organisation qui a des finalités militantes, hein, dont le but est de faire en sorte, et ce qui est un but tout à fait louable en soi, hein, il ne s'agit pas de le remettre en cause, de faire en sorte que ces espaces protégés fonctionnent mieux et qu'ils soient peut-être de plus en plus nombreux, même si ce type de course et de fuite en avant est de plus en plus remise en cause. Donc, par rapport à la définition des aires protégées, moi, ce qui me paraît important, c'est déjà de mettre en avant, ce qu'on ne retrouve pas dans cette définition de l'UICN, le fait qu'il s'agit d'une construction politique. Hein, c'est-à-dire que l'espace protégé, ce n'est pas quelque chose qui est immanent, qui est décidé comme ça par la nature. C'est un espace qui est délimité, qui est borné. Parfois, vous avez des frontières à cet espace protégé. Hein. Si vous circulez dans un parc national, vous voyez le petit drapeau tricolore qui en marque l'entrée en France. Donc ça, c'est des bornes, des limites. Vous avez une réglementation à l'entrée du parc qui montre que vous entrez dans cet espace protégé. Donc tout ça, c'est le fruit d'une construction politique et d'un choix politique. Mmh. Et à l'intérieur de ce périmètre, il y a parfois plusieurs zones qui sont plus ou moins protégés, basés, comme vous l'avez dit, sur des dispositifs juridiques, sur des réglementations, qui protègent soit tout l'espace, soit une espèce en particulier jugée emblématique, significative, avec un intérêt biologique qui est jugé considérable. Donc tout ça, finalement, va conduire au tracé de cet espace, dans le cadre, là encore, d'une volonté de préservation d'une espèce plutôt qu'une autre, de mise en place d'un réseau équilibré de milieux protégés à l'échelle nationale. Et c'est un choix d'aménagement du territoire, hein, comme on dirait en France. C'est ce qui justifie aujourd'hui le fait que les parcs nationaux qui sont en cours de création en France visent à compléter ceux qui existent déjà, plutôt que de protéger des milieux qui l'ont déjà été par le passé. Alors, l'UICN propose 6 catégories d'espaces protégés. On ne va pas rentrer dans le détail. Simplement pour que les auditeurs comprennent, la catégorie 1, c'est la plus rigoureuse. Donc, la présence humaine est interdite. C'est notamment ce qu'on appelle en France les réserves intégrales. Et à l'inverse, au bas de l'échelle, vous avez la catégorie 6, dont certains auteurs considèrent que ça n'est plus vraiment de l'espace protégé parce qu'il s'agit de gestion durable sans véritablement privilégier des objectifs de protection. Et donc, les parcs nationaux, c'est la catégorie 2, c'est-à-dire la catégorie, la deuxième, la plus stricte en quelque sorte, qui place bien, de manière privilégiée, la protection de l'environnement comme objectif principal, mais en tolérant.
Mais en tolérant le tourisme.
Voilà, en tolérant les activités humaines, ça peut être le pastoralisme. En général, on interdit la chasse dans un parc national, mais le pastoralisme est souvent autorisé. Et puis le tourisme, comme vous l'avez dit.
Toujours avec Lionel Laslaz, justement, le tourisme, c'est notre question aujourd'hui, et en particulier le tourisme dans les parcs nationaux. Je propose de faire aller un petit voyage un peu plus au sud. On va aller du côté du Gabon, à Libreville. On retrouve Romain Calac dans un instant.
Je suis un soldat avec un message de Dieu. C'est nécessaire que mon message passe. Que mina walk, bien walk pendant des siècles. Des centaines de milliers de blacks furent déportés, vendus au nouveau monde. Combien de morts, combien de vendus? Chut, silence, l'Occident mis l'évidence. Molon walk, le peuple juif fut réparé par les nazis. Et pour l'Afrique, deux poids, deux mesures. Nous sommes des saisons, disent-ils. Oubliez l'histoire, ce sont des moins que rien. Des esclaves, le monde a guidé.
Modzang Eya, un artiste gabonais qui mélange très bien la musique traditionnelle et puis la musique un peu plus moderne, pour accueillir Romain Calac, directeur général de WCS Gabon, qui est une ONG environnementaliste, qui a notamment accompagné le gouvernement gabonais dans la création de ses 13 parcs nationaux en 2002, une création qui avait été décidée à l'époque par Omar Bongo lors du sommet de la Terre de Johannesburg. Romain Calac, la première question que je vais vous poser, elle est assez simple. Est-ce que ces parcs nationaux fonctionnent bien au Gabon? Alors aujourd'hui, bien sûr, la question qui nous intéresse, c'est du point de vue touristique, bien sûr.
Non. En fait, d'un point de vue conservation, protection, c'est-à-dire qu'en fait, les parcs nationaux ont deux vocations, protéger évidemment la biodiversité, et d'autre part, effectivement, contribuer, promouvoir un tourisme nature. Côté conservation de la biodiversité, on constate une amélioration significative de la protection de ces parcs nationaux. En revanche, côté développement du tourisme, globalement, sur les 10 dernières années, on ne constate pas une évolution majeure sur la plupart des parcs, peut-être à l'exception du parc qui est juste en face de Libreville et qui s'appelle Pongara.
Mais pourtant, si j'ai bien compris, en fait, le Gabon, au départ, avait lié en fait les deux questions, à la fois le tourisme et la question de la protection de l'environnement. On s'était dit, on va développer le tourisme en protégeant la nature et vice-versa.
Tout à fait, parce que c'est un lien qui existe et qui a été mesuré, constaté dans un grand nombre de pays. Et donc, la décision du président Omar Bongo en 2002 était effectivement principalement fondée sur l'idée que la création des parcs nationaux et l'appui promis par un certain nombre de pays ou de partenaires, en premier lieu les États-Unis, à la création de ces parcs nationaux permettrait le développement, l'essor d'un tourisme vert, écotourisme, qui contribuerait à la diversification de l'économie gabonaise. Ce qui n'a pas eu lieu, finalement, c'est la levée d'un certain nombre de contraintes sectorielles, structurelles, etc., qui ont fait que le développement du tourisme dans ces parcs n'a pas eu lieu, somme toute.
Mais attendez, précisons un peu pourquoi ça n'a pas fonctionné. Pourquoi l'activité touristique ne fonctionne pas bien au Gabon en général et en particulier autour de ces parcs nationaux ?
Très nombreuses raisons à ça qui sont plus ou moins liées aux parcs nationaux ou plus ou moins liées au pays dans son ensemble. Si on prend les parcs nationaux proprement dit, Ce qui a eu lieu dans les premières années après leur création, donc on va dire jusque vers 2005, 6, 7, ça a été une très très forte promotion du potentiel touristique de ces parcs au niveau mondial. Et ça, ça a très très bien marché. Et donc on a eu apparition d'une très forte demande mondiale venant d'Occident, d'Asie, Europe, États-Unis et même certains pays africains qui disaient « Mais voilà, formidable, on a découvert les parcs du Gabon et on veut y aller. On veut vous envoyer du monde. » Alors ça a très très bien marché et on s'est retrouvé avec les parcs du Gabon mentionnés par Oprah Winfrey aux États-Unis, par CNN, par etc., etc. En revanche, le deuxième volet qui lui est l'offre, mais en face on n'a pas eu d'offre et on n'a pas eu création d'une offre. Et là, ça renvoie pas seulement à l'existence d'un potentiel, d'un patrimoine naturel exceptionnel, parce que ça il existe, mais en revanche ça suppose des infrastructures, des ressources humaines, un cadre des affaires.
Ça suppose des investissements et donc des
juridiques, fiscales, etc., n'ont pas été mis en place.
Mais parce que ça veut dire des investisseurs, je veux dire.
C'était pas nécessairement ça le plus gros problème, parce que des investisseurs se sont présentés, principalement des investisseurs internationaux, mais il y a quelques investisseurs nationaux qui également se sont lancés dans l'aventure. Le problème, c'est que c'est un marché assez concurrentiel à côté extérieur du Gabon, mais à l'intérieur du Gabon, c'est un marché où le ticket d'entrée est très élevé parce que un certain nombre d'éléments de développement du tourisme n'existaient pas encore. Et par conséquent, investir au Gabon dans le tourisme vert était d'une certaine manière risqué et très cher. Et donc, la plupart des investisseurs qui sont venus au Gabon, et ils ont été quand même assez nombreux, ont dit, voilà, nous on est prêts à investir, mais il faudrait que un certain nombre de points soient réglés. En général, on était entre 5 et 10 points qui pouvaient aller de la création d'un visa touristique à un certain nombre de mesures d'accompagnement fiscal ou juridique, etc., pour les investisseurs, notamment la garantie du foncier ou ce genre de choses. Ces listes ont été transmises aux autorités et elles n'ont pas été réellement prises en compte par les autorités. Et donc, la plupart des investisseurs internationaux, en tout cas, ne se sont pas lancés. Et quant aux investisseurs nationaux, ils se sont lancés, mais avec énormément de difficultés et une croissance très faible. Ce qui renvoie finalement à un dernier point qui est plus large que la question du tourisme, qui est qu'un tourisme vert dans des pays faiblement développés en infrastructures ou en ressources humaines nécessite une très forte volonté politique avec une stratégie à moyen long terme. Or, le Gabon étant un pays bien connu pour étant quand même marqué par la rente pétrolière, il n'a pas développé cette stratégie, cette volonté politique n'a pas été suffisamment ferme. Et faute de ce cadre politique, il n'a pas été possible d'investir suffisamment dans l'offre.
Je vais encore vous embêter, Romain Calac, et rentrer peut-être un peu plus dans le détail. Si on regarde, par exemple, les parcs nationaux qui ont été créés, quelle est, au fond, la marge de manœuvre d'un investisseur potentiel, de quelqu'un qui voudrait, en effet, développer l'écotourisme dans un de ces parcs régionaux? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Quelle est sa marge de manœuvre? En gros, c'est quoi son autonomie par rapport à l'État?
Alors ça, c'est une autre question effectivement assez importante, parce qu'on a plusieurs modèles qui ont été proposés au gouvernement gabonais et il y a eu un peu de tergiversation sur la question. En gros, on a des opérateurs touristiques, notamment anglophones, arrivant d'Afrique australe ou d'Afrique de l'Est, qui sont arrivés avec des modèles de type concession clé en main. C'est-à-dire, non seulement on gère l'hôtel, mais on veut gérer aussi la protection des sites animaliers, des espèces phares, etc. On veut gérer la formation des guides, évidemment gérer les guides eux-mêmes, mais pourquoi pas même gérer les gardes, etc. Gérer les infrastructures d'accès et compagnie. Alors ça, c'est un modèle extrêmement intégré qui a l'avantage donc d'avoir beaucoup de cohérence et souvent d'ailleurs des budgets assez conséquents. Mais si on peut dire le désavantage, c'est que sous forme de cette concession, l'État se détache, délègue une grande partie de ses compétences, y compris sur le terrain. C'est-à-dire que vous avez des directeurs de parcs qui se retrouvent finalement dépossédés d'une partie de leurs prérogatives au profit d'un opérateur touristique.
Et quasiment de leur territoire même d'ailleurs.
Et une partie de leur territoire, exactement. Et donc ça, c'est un modèle qui existe, qui est en cours de test, d'ailleurs en plusieurs pays. Aujourd'hui, on a le Congo-Brazzaville qui fait cette expérience-là dans un de ses parcs, le Tchad et puis d'autres pays ailleurs qui font cette expérience de concession touristique, mais au sens extrêmement large, c'est-à-dire c'est quasiment une concession de gestion du parc. Et puis, on a un modèle complètement opposé qui est l'État pilote l'essentiel, c'est-à-dire gère la protection, gère les voies d'accès, et parfois même gère les guides, c'est-à-dire que les guides sont des guides fonctionnaires du parc, et les opérateurs touristiques sont invités à ne gérer que des infrastructures de type accueil, c'est-à-dire les hôtels, les lodges, éventuellement un petit peu de véhicules pour se promener, mais ce qu'on appelle l'interprétation, le guidage, etc., sont assurés par le parc lui-même, lequel parc est géré par l'administration de l'État. Administration qui peut soit être relativement autonome, comme l'agence des parcs du Gabon d'ailleurs, ou parfois même carrément un ministère du gouvernement. Alors là, on est avec une très très faible marge de manœuvre pour les opérateurs touristiques. Aujourd'hui, on est un peu entre les deux, c'est-à-dire que le gouvernement, le nouveau gouvernement, est en train de promouvoir des projets touristiques de type un petit peu économie mixte, c'est-à-dire que via son fonds souverain, le Gabon envisage d'investir des financements publics gabonais dans des joint ventures avec des opérateurs touristiques internationaux assez connus pour, d'une certaine façon, contrôler l'opération touristique tout en la déléguant. La contrôler d'un point de vue actionnariat, mais la déléguer fortement à des opérateurs internationaux qui auraient un mandat assez fort. Donc là, on est dans une voie un peu médiane, mais qui pour l'instant reste assez virtuelle parce qu'il y a des contrats en cours de développement, mais qui n'ont pas encore donné lieu à des opérations concrètes sur le terrain.
Merci beaucoup Romain Calac, directeur général donc de WCS Gabon, en direct avec nous depuis Libreville. Depuis Libreville, on va du côté de Chambéry, on vous retrouve Lionel Laslaz. Qu'est-ce que vous inspire cet exemple gabonais? On voit que ça a été difficile, hein, au fond. Hein. On a décidé il y a une dizaine d'années maintenant de mettre en place cette douzaine, ces 13 parcs nationaux. Et on voit qu'il y a beaucoup de difficultés pour développer le tourisme dans ces parcs. Hein.
Oui, le cas est effectivement très intéressant. Hein. Il renvoie à ce que j'ai dit sur le rôle des ONG et des acteurs internationaux par rapport aux politiques conduites à l'échelle nationale et également sur l'expression d'une véritable volonté politique, hein, puisqu'il n'y avait pas de réseau très développé jusqu'en 2002 et coup sur coup, donc on va créer 13 parcs nationaux. Donc le WCS, Wildlife Conservation Society, c'est une des 6 autres bingo dont j'ai parlé précédemment pour l'UICN, donc effectivement, qui a joué ici ce rôle moteur. Alors peut-être deux remarques, hein. En interprétant un petit peu ce qui a été dit par Romain Calac ici, bon, d'une part, le rôle absolument fondamental de la stabilité politique dans les États, oui, qui explique le fait que en raison de systèmes politiques qui sont en partie et assez largement, malheureusement, dans le cas du Gabon, gangrénés par la corruption, de systèmes politiques qui ont du mal à cadrer et impulser une synergie suffisamment forte pour créer des structures, des dynamiques favorables aux touristes, hein, puisque pour que les investisseurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux, investissent, il faut qu'il y ait un certain nombre de garanties. Et malheureusement, beaucoup d'États africains ou également d'Asie du Sud-Est n'offrent pas ces garanties qui permettent d'éviter, de limiter les risques. Le deuxième élément très intéressant qu'il a rappelé ici, c'est la volonté de reproduction d'un système qui se répand aujourd'hui sur une bonne partie de l'Afrique, puisqu'il a parlé d'opérateurs touristiques en provenance d'Afrique de l'Est ou de l'Afrique australe. C'est le modèle de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud joue un rôle absolument moteur sur l'ensemble du continent africain pour ce qui concerne les politiques de protection, avec donc ce système dont il a parlé d'accueil touristique, de lodge, de safari, qu'on va retrouver également tout à l'heure au Kenya. Et puis le dernier élément,
C'est quel type de modèle économique ça? Est-ce que c'est le modèle très intégré dont nous parlait Romain Calac? Est-ce que c'est le modèle avec une forte intervention de l'État, hein, qui est vraiment à l'opposé? Ou est-ce que c'est la troisième option dont parlait Romain Calac tout à l'heure, c'est-à-dire une sorte d'économie mixte avec un petit peu de public, un petit peu de privé?
C'est un mélange dans le sens où l'État doit garantir les conditions dans lesquelles les investisseurs privés puissent en quelque sorte opérer ce développement touristique. Donc la volonté politique de mise en place de réseaux d'espaces protégés, elle est très forte en Afrique du Sud, hein, avec le parc Kruger qui a été un des premiers mis en place à l'échelle mondiale. Et puis il y a également un libéralisme économique et des investissements qui renvoient d'ailleurs à l'héritage politique de l'apartheid, hein, puisque ces investisseurs dans le tourisme, comme l'a montré mon collègue Sylvain Guyot, sont principalement des populations blanches, avec des logiques qui relèvent encore en partie de l'apartheid et des logiques ségrégatives encore aujourd'hui, hein. Et ce modèle, bah, il s'est répandu au Zimbabwe, en Mozambique, et il concerne également un certain nombre d'autres États. Et puis le dernier élément intéressant de son intervention, c'est les limites de l'écotourisme, hein, puisque le tourisme vert, l'écotourisme, c'est une tarte à la crème, hein, dont on parle beaucoup, dont on considère que ça va être la panacée dans toutes les formes de développement. Mais en réalité, il a bien montré qu'il était extrêmement difficile de le mettre en place dans des États dans lesquels les niveaux de développement sont extrêmement faibles. Et puis également dans la possibilité de mettre en place et de capter un marché. Parce que l'écotourisme, ça coûte plus cher. Donc ça signifie qu'il faut trouver des gens susceptibles d'une part de pouvoir se déplacer, et les bassins touristiques sont quand même relativement éloignés, et puis d'autre part de pouvoir être hébergés dans des dispositifs qui relèvent de cet écotourisme et qui sont donc relativement coûteux.
Oui, et en plus, c'est même pas évident. C'est-à-dire que l'écotourisme, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est difficile à cerner, à définir. Hein. Mais on va en parler tout à l'heure dans un instant, parce qu'on va retrouver tout à l'heure Jean Ryoko, depuis le Kenya. Donc on va se garder ça de côté. On va continuer ça dans un instant. On retrouve tout de suite Alexis Patovstev pour sa chronique Frontières, et on se retrouve juste après Lionel Laslaz. Donc la dernière chronique Frontières d'Alexis Patovstev pour cette année. Et alors que les derniers résultats médiamétriques ont été encourageants pour France Culture, et d'ailleurs on remercie bien sûr nos auditeurs, on vous remercie. Et donc pour cette dernière frontière de la saison, Alexis a voulu vous adresser un petit message.
Selon la dernière vague médiamétrie, la fameuse 126 000 qui est parue mardi, à peu près 600 000 auditeurs perdus sur un an, vous êtes talonné par Énergie. Est-ce que c'est une contre-performance?
Ah, c'est la question qui fait mal. Je vous rassure, il ne s'agit pas de France Culture, mais d'une autre chaîne. Au contraire, les statistiques montrent que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Pour notre dernier rendez-vous de la saison avant les vacances, j'ai envie de traverser la frontière qui me sépare de vous. La frontière entre un intermittent du spectacle, tel est mon titre officiel, et ma cible. Vous, la ménagère de 50 ans, vous, l'agriculture corse, vous, le professeur toulousain. Le fait qu'en tant qu'un auditoire cumulé, vous êtes une centaine de milliers à m'écouter à une heure pas très commode me réjouit bien sûr, mais j'ai envie d'avoir davantage d'écho de la part de ceux qui payent mon salaire, de votre part. Depuis longtemps, je propose de remplacer le dieu Audimat par le Qualimat. Je propose aux sociologues d'inventer un moyen d'évaluer ma propre utilité, autrement que par le nombre de mes auditeurs et la carte blanche de la direction. Un élément important existe déjà, ce sont vos commentaires sur le site de ma rubrique. Quelques centaines en tout. Je n'ai jamais censuré un seul commentaire, même quand ils étaient désagréables à mon égard. Je n'ai jamais eu un seul commentaire que j'aurais été obligé de censurer non plus. Vous tous, vous pouvez faire un tour sur le site franceculture.fr, émission Frontières, pour se faire une opinion sur ce qu'expriment ceux parmi vous qui ont décidé de s'exprimer.
Selon la dernière vague médiamétrie, la fameuse 126 000 qui est parue mardi, à peu près 600 000 auditeurs perdus sur un an, vous êtes talonné par Énergie. Est-ce que c'est une contre-performance?
Cette embêtante question touchant aux statistiques paralyse totalement. Mais comment expliquer à une personne qui a écouté son émission préférée pendant des années que l'émission vient d'être supprimée à cause des mauvais chiffres? Son attachement à l'émission coûte donc moins cher que la perte d'intérêt de la part des autres. La force des émotions ne compte-t-elle pas? Et les émotions, nous les producteurs, on les ressent. Pas tellement à travers les commentaires sur les sites, mais dans les courriers électroniques et surtout dans les lettres manuscrites, sur un bout de papier, à l'ancienne. Je dois reconnaître une force de conviction hors de commun chez ceux parmi vous qui m'écrivent des lettres de protestation longues et détaillées chaque fois que je mentionne le nom des diables incarnés, Thatcher ou Reagan, ou si je n'emploie pas le mot « libéral » de manière péjorative, levée des boucliers généralisés. Je ne peux que révéler un secret. Mon rôle est de vous amener au-delà des frontières, entre autres au-delà des frontières de vos propres convictions, même s'ils sont de gauche. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui me corrigent. Oui, quand je dis récemment « Ligue des Nations », j'ai dû dire « Société des Nations ». Je suis impressionné par l'attention pour le moindre détail de la part de ceux qui m'écrivent. Merci pour votre exigence. Merci pour toutes les propositions de nouvelles frontières à traverser. Certains auteurs ont dû remarquer que j'ai lu leurs lettres. Merci également pour tous les attachés de presse, pour les livres que vous m'envoyez, les spectacles que vous me faites découvrir et les voyages de presse à travers les frontières. Je n'ai pas suffisamment de temps pour vous remercier chaque fois à l'antenne et je n'ai absolument pas de temps de répondre à votre courrier. Sachez simplement que c'est moi-même qui reçois et qui lis mon courrier, donc il n'y a pas de filtre. Merci pour tous vos merci humains, écrits ou tapés, qui me font plaisir beaucoup plus que les chiffres de médiamétrie, même s'ils sont 100 fois moins nombreux. Merci également pour toutes vos propositions de passer mes vacances en Bretagne. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours les Bretons qui m'invitent chez eux l'été. Je sais, je ne viens jamais, je sais que je suis infidèle et préfère passer mes vacances dans les forêts finlandaises pleines de moustiques. Vous savez, on se retrouvera plutôt ici, sur les ondes de France Culture fin août. Si Dieu le veut, bien sûr.
Selon la dernière vague médiamétrie, la fameuse 126 000 qui est parue mardi.
Oui, on le retrouvera, Alexis Patochtev, à la rentrée, bien sûr, pour sa chronique Frontières, toujours dans Culture Monde. Culture Monde pour cette dernière semaine de la saison, puisqu'on se retrouvera, bien sûr, l'année prochaine. Cette semaine autour du temps des vacances. Aujourd'hui, le tourisme, en particulier dans les parcs nationaux. On est avec Lionel Laslas depuis Chambéry, qui est géographe, maître de conférence à l'Université de Savoie, auteur des parcs nationaux. Dans le monde qui était paru chez Ellipse et qui va bientôt paraître l'Atlas mondial des espèces protégées chez Autrement. On va aller tout de suite du côté du Kenya. Le Kenya qui est l'un des pays les plus prisés par les touristes en Afrique. On y vient pour ses paysages, pour l'immense richesse de sa faune, une faune qui attire de plus en plus de touristes, qui participent ou du moins qui accompagnent au fond les projets scientifiques de protection de l'environnement.
J'en vois au moins 16 ou 17.
17 ?
Ouais.
Et d'ici, on a l'impression que c'est des petites taches noires.
Ouais.
Avec les jumelles, on voit mieux.
Pas quand ça bouge. Faut s'arrêter.
Donc Céline, c'était les premiers éléphants
oui,
du séjour
premiers, oui, premiers éléphants, bon, un peu loin, mais bon, on en verra d'autres plus près. Mais oui, ça y est, baptême d'éléphants d'Afrique réussi. Et on n'est pas encore au niveau du corridor, donc c'est bien.
Ouais.
On est chanceux d'en voir déjà ici, c'est bien.
C'est impressionnant quand même de les voir dans leur habitat naturel. Hein.
Ça n'a rien à voir. Bah, c'est leur habitat, quoi. C'est ici qu'ils vivent, ça n'a rien à voir. C'est pas un zoo. C'est nous qui venons les voir. C'est pas eux qui viennent à nous.
Claire, alors, vous faites partie du groupe de recherche. Ils sont assez loin parce qu'en fait, ils viennent boire.
Most of them, we find them there. They come to drink water from there.
Oui, la plupart viennent là pour boire. Et si finalement ils ne boivent pas, ils se dirigent quand même vers le corridor où nous menons notre projet de recherche. On trouve donc souvent des éléphants dans cette zone.
C'est pas uniquement des vacances, c'est se rendre utile, participer justement aux recherches pour préserver les éléphants. Parce que moi, c'est parce que j'aime les éléphants, mais ça va permettre de les préserver, de peut-être améliorer aussi leur environnement. Quelque part, on participe à la préservation de l'espèce, on se rend utile, c'est pas que des vacances, quoi.
Voilà un petit extrait d'un reportage d'Alexia Gaillard qui avait été diffusé sur RFI en juin 2010, qui nous emmène du côté du Kenya où on retrouve Jean Ryoko. Vous êtes à Nairobi. Bonjour Jean Ryoko.
Bonjour, monsieur Delorme.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur de géographie.
Très content de retrouver Culture Monde.
Oh, c'est gentil. Bah, nous aussi, on est content de vous retrouver. Vous êtes donc, je le disais, géographe à Lyon 2 et vous êtes en train de préparer un livre. Tiens, rien que le titre m'intéresse, le Kenya dans la troisième révolution touristique au-delà du safari. Est-ce qu'il faut comprendre que les safaris dans les parcs nationaux kenyans, ils n'ont plus la cote ?
ils sont un peu en déclin parce que, bon, d'abord, le Kenya n'est pas le pays le plus performant en termes d'autonomisation des communautés. C'est plutôt la Tanzanie, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, le Botswana. Donc, il y a vraiment une stagnation, voire un déclin, on va dire, de la fréquentation internationale dans les parcs nationaux. Alors, les touristes, les acteurs du tourisme kenyan l'ont bien compris et se tournent vers le marché intérieur. C'est ça la troisième révolution touristique, c'est-à-dire ce qui est entre une élite et une classe moyenne au Kenya, c'est pas vraiment encore une classe moyenne, c'est un entre-deux. Eh bien, d'une part, l'élite kenyane voyage de plus en plus à l'étranger et surtout découvre son pays. On a un tourisme intérieur, domestique.
Et alors comment on fait, Jean Ryoko, justement, pour développer ce tourisme intérieur? Il y a des stratégies particulières?
Oui, alors il y a des stratégies. D'abord, vous avez des points, vous avez des smiles dans les supermarchés indiens, les nakumat, pour aller dans les parcs nationaux. Mm-hmm. Parce que pendant plusieurs années, l'élite kenyane et la minorité indienne, elle a reproduit un peu l'acquis de civilisation des Britanniques, c'est-à-dire la nature, c'est le patrimoine au Kenya, et non pas la culture. Mais maintenant, quand même, il y a ce souvenir douloureux des émeutes sanglantes post-électorales de 2008-2009. Et donc, on sent qu'il faut qu'il y ait une découverte des autres ethnies, une intercompréhension avec toutes les ethnies. Donc, il y a un développement, si vous voulez, des sites mémoriels, des sites de culture de chacune des ethnies, avec le classement comme National Monument, les musées nationaux du Kenya, pour les Luo, pour les Kalenjin, pour les Kikuyu, donnent ce label, un peu comme les sites classés chez nous, et on a des touristes kenyans de toutes les tribus qui vont à la découverte des autres ethnies. Alors, il ne faut pas rêver, ça prendra peut-être 2 décennies, mais on est vraiment dans la relation entre nature et culture. Il y a de plus en plus un tourisme de la mémoire dans ce pays qui est jeune, qui est indépendant depuis 1963.
Donc un tourisme culturel interethnique au fond avec ses musées nationaux qui tentent d'apaiser au fond les tensions interethniques. Ça fonctionne ?
Ça commence à fonctionner. Mmh. J'étais par exemple là sur un rocher sacré de l'ethnie des Luo autour du lac Victoria, qui est un lieu complexe. On a des rites animistes de cette ethnie Luo. On a la cristallisation d'une église qui a 2,5 millions de fidèles dans toute l'Afrique de l'Est, les Legio Maria. Donc on a des femmes, des adeptes qui sont en habit de culte. Et puis on a de la même ethnie, des Luo, des couples modernes à l'occidental qui viennent visiter ce rocher, qui sont pas du tout croyants de cette église. Mmh. Donc on commence à avoir la mise en place d'un tourisme intérieur. Mmh. Mais il est lent. Pour l'instant, on va visiter les lieux de son propre groupe ethnique. Mmh. Mais il y a une promotion, il y a dans certains restaurants à la mode de Nairobi, il y a la nuit des Kalenjin, il y a la nuit des Kikuyu, la nuit des Luo. On commence à Eldoret, à Kisumu, dans les villes de second rang, à développer des semaines culturelles pour faire connaître d'autres ethnies. Mmh.
Jean Ryoko, revenons vraiment à nos parcs nationaux et peut-être aussi à l'émergence au fond de l'écotourisme. On va prendre un exemple très concret. Au nord du Kenya, il y a un parc national qui s'appelle Meru, qui est une zone protégée de 4000 km². Alors, son histoire est un peu symbolique, je la raconte très très rapidement, mais il est créé en 1966. Il est à l'époque l'un des fleurons du pays. La préservation, la réintroduction d'espèces fonctionne assez bien. Et puis, c'est la catastrophe. Les années 80 arrivent, il y a beaucoup d'animaux qui sont massacrés. Des braconniers tuent à tour de bras. Je crois qu'il y a plusieurs centaines, 300 rhinocéros noirs qui sont abattus. Il faut donc reconstruire les choses, réimaginer. On recrute des paramilitaires pour garder d'abord la zone. On commence à repeupler le parc. Et puis, on mise sur un tourisme dit durable, je mets des guillemets, en limitant le nombre de touristes. Au fond, c'est peut-être ça, l'écotourisme. Quel bilan est-ce qu'on peut faire de cette expérience symbolique, mais en gros, plus généralement, de l'émergence de cet écotourisme kenyan?
Alors c'est vrai que Meru, la France peut être fière, parce que l'ambassade de France s'est beaucoup engagée dans la réimplantation d'espèces qui étaient tuées par les poachers, par les braconniers. C'est intéressant, Meru, mais ce qui était encore plus intéressant, c'est que le Kenya veut redéployer son espace touristique vers l'ouest, vers des régions qui sont peu mises en tourisme, notamment les bords du lac Victoria, et vers les dernières forêts reliques primaires, notamment la forêt de Kakamega, sur lesquelles il y a eu des thèses récemment soutenues. Alors là, on a vraiment dans des parcs, on n'a pas le côté spectaculaire des animaux, des fauves, des big five, mais on a des espèces qu'on voit la nuit, on a des papillons. Alors là, on commence à construire des hébergements durables, des hébergements légers. Il y a une espèce de tourisme scientifique qui se développe pour des Américains, des Australiens, des Néerlandais. C'est plutôt dans l'Ouest, dans ces lambeaux de forêt primaire, que se développe ce tourisme scientifique, cet écotourisme. Alors que c'est très difficile de le développer à Meru, bien que ça soit un exemple, mais c'est très difficile de le développer dans les grands parcs comme Masai Mara ou Amboseli.
Lionel Laslas, que vous inspire cet exemple kényan ?
Oui, ça rejoint ce qu'on a dit précédemment concernant le Gabon par rapport aux difficultés de mettre en œuvre ces logiques écotouristiques en lien avec des niveaux de développement qui sont parfois délicats. Et également les limites de ce qu'on appelle écotourisme. À partir du moment où vous empruntez un avion pour vous rendre vers des destinations touristiques lointaines, est-ce qu'on peut encore parler d'écotourisme ? Peu d'États réussissent dans les standards internationaux à rendre compatible un réseau d'espaces protégés et de parcs nationaux relativement denses et le développement de l'écotourisme.
Quand vous dites souvent... peu, ça veut dire qu'il y en a.
Oui, on cite souvent comme modèle les Seychelles, mais depuis le bassin touristique européen, les Seychelles, c'est pas donné, mais 22% de la surface de l'État sont couverts par les seuls parcs nationaux, et il y a effectivement toute une série de développements d'infrastructures qui relèveraient de l'écotourisme. Le Costa Rica, qui est considéré comme un des modèles de la préservation en Amérique latine, et puis la Nouvelle-Zélande. Mais là encore, avec des coûts extrêmement élevés.
Merci beaucoup, Jean Ryoko, d'avoir accepté notre invitation depuis Nairobi.
Petit commentaire ou c'est trop tard ?
Non, très rapide alors.
Non, simplement, le Costa Rica, c'est plus vraiment un modèle, dans la mesure où il n'y a même plus d'observation de la capacité de charge. Toute l'alimentation des touristes est importée du Canada. Ce fut un modèle il y a 20 ans, mais maintenant il a un peu du plomb dans l'aile. D'autre part, il faudrait en un mot définir ce que c'est que l'écotourisme. On a tendance en France à dire que dans nos PNR et dans nos parcs nationaux, c'est de l'écotourisme. C'est d'abord un tourisme responsable, un tourisme d'implication. On va chercher à connaître des espèces animales, des oiseaux. On va tracer des sentiers de grande randonnée. C'est un tourisme d'implication. C'est pas un tourisme de vision. C'est pas un tourisme passif de photographie comme les safaris. Voilà. Excusez-moi de ce petit
Je vous en prie, voilà, c'est dit. Merci beaucoup, Jean Ryoko. C'est pas que je veux vous censurer, mais c'est qu'on arrive, vous savez, nous, on a une pendule en face de nous, c'est terrible.
Comprends.
Merci infiniment, en tout cas, d'avoir été avec nous
Bonne
en direct depuis Nairobi.
Au revoir.
Merci infiniment. Et puis, merci aussi beaucoup à vous, Lionel Laslas, d'avoir honoré notre invitation.
Merci
je rappelle, auteur des parcs nationaux dans le monde, protection, gestion et développement durable. Et puis, apparaître la classe mondiale des espaces protégés. On parlait aujourd'hui des espaces nationaux. À quand les espaces internationaux, Lionel Laslas ? C'est vrai qu'au fond, la nation s'est dépassée et puis l'environnement, ça se pense globalement.
Ça existe déjà. C'est les parcs transfrontaliers, dont le premier est à cheval sur la frontière entre États-Unis et Canada depuis 1932. C'est les lacs Waterton côté Canada et le parc Glacier côté États-Unis. Et donc, il existe aujourd'hui plusieurs dizaines de parcs transfrontaliers qui visent justement à dépasser ce strict cadre national. Et on pourrait aussi évoquer les aires marines protégées.
Eh bien, on l'évoquera. Vous savez quoi ? On l'évoquera dans une prochaine émission, c'est promis.
Pas de problème.
Un grand merci à vous, Lionel Laslas. Très bonne journée.
Merci, bonne journée.
Et merci également à toute l'équipe, évidemment, de France Culture, de Culture Monde, Lucille Como, Philippine Proust, Sophie Bobert, Christophe Payet, Camille Rivière, Jezabel Berdoula à la technique, Doria Zénine à la réalisation.